à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 19 août 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Bamako met en garde la MINUSMA contre tout traitement inéquitable après la mise en place d'une zone de sécurité autour de Kidal.
Au Burkina Faso, deux anciens ministres de Blaise Compaoré sous mandat de dépôt et écroués mardi.
En Thaïlande, le temple de Bangkok, frappé par un attentat lundi, rouvre ses portes.
Ici aux États-Unis, un autre influent sénateur démocrate promet de voter contre l'accord sur le nucléaire iranien conclu avec Téhéran.
L'ONU tire la sonnette d'alarme sur une grave crise humanitaire qui menace Haïti.
Voilà pour quelques-uns des titres et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement malien a mis en garde mardi la mission de l'ONU contre tout traitement inéquitable après qu'elle a mis en place une zone de sécurité autour de Kidal, chef-lieu de région dans le nord du pays et fief de rebelles après des combats meurtriers. La MINUSMA a commencé mardi matin à établir cette zone de sécurité de 20 km autour de la ville de Kidal à la suite de violences depuis le 15 août entre la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, rébellion à dominante Touareg, et le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et Allié Gatia, groupe armé pro-gouvernemental, dans des localités autour de Kidal, sous contrôle de la CMEA.
D'autre part, les responsables des mouvements de la plateforme demandent à la MINUSMA de surseoir à la zone de sécurité autour de Kidal. Ils demandent aux populations de rester vigilantes face à cette situation qui prévaut dans la région de Kidal. Au micro de notre correspondant Kassim Traoré, le porte-parole de la plateforme, Maître Harouna Touré.
La MINUSMA est censée venir aider à apporter la sécurité sur notre territoire, de dire à la MINUSMA de mettre fin tout de suite à cette zone dite de sécurité qui n'est en réalité qu'un camp de concentration qui a été créé dans le seul dessein de permettre aux gens de la CMA, un, de s'organiser, se mobiliser pour nous attaquer les populations aussi bien à l'intérieur de Kidal qu'à l'extérieur, deux, de permettre à la CMA de martyriser davantage nos populations, de les tuer à huis clos sans que personne ne sache ce qui s'y passe. Voilà ce que nous demandons au gouvernement du Mali de faire, avec le soutien de toutes les populations du Mali. Il faut que cette zone dite de sécurité sorte tout de suite. Voilà notre objectif. Et nous disons ceci, si avec la complicité de la MINUSMA, des combattants de la CMA venaient à nous attaquer sur nos positions en sortant de Kidal, nous ne garantissons pas du tout que nous ne poursuivrons pas jusqu'à Kidal, advienne que pourra. J'ai dit bien advienne que pourra.
Au Niger, une vingtaine d'organisations de la société civile et des partis d'opposition se sont coalisées en Front patriotique et républicain, FPR. Ils ont décidé ainsi d'unir leurs forces face à ce qu'ils qualifient de déclin national et de régression sociale, mais surtout pour exiger des autorités en place des élections libres, crédibles, transparentes et ouvertes. Le Niger, pour rappel, organise des scrutins présidentiels, législatifs et municipaux en 2016. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le principal objectif de la création de ce front composé d'organisations politiques et de structures de la société civile, c'est de faire en sorte que les élections générales de 2016 au Niger soient transparentes, inclusives et honnêtes. Les acteurs de la société civile, signataires de l'acte de création du FPR, justifient leur coalition avec des forces politiques par les inquiétudes sur le processus électoral. Boubacar Diallo en fait partie.
C'est vrai, il y a des problèmes parce que dès lors qu'ils refusent d'accepter le fichier et ils disent qu'ils n'acceptent pas la Cour constitutionnelle, c'est qu'ils disent qu'il y a des problèmes en dehors du fichier électoral, en dehors de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, quand on voit la situation qui se dessine, c'est qu'on ne voit même pas un candidat au sein de l'opposition. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, je pense que ce n'est pas logique.
À la majorité, on retorque que le FPR est fondé sur une fausse base. Il ne fera donc pas long feu, estime Zarami Abdakari du parti au pouvoir.
Selon cette organisation, on a l'impression que d'un jour à l'autre, le Niger va disparaître. Il n'y a rien qui marche, alors qu'il n'en est rien. Je pense que dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de contre-vérités.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, deux anciens ministres de Blaise Compaoré ont été mis sous mandat de dépôt par la Haute Cour de justice du Faso. Ils ont été écroués ce mardi à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Des détails avec Bagassi Koura.
Il s'agit de Jean-Bertin Ouédraogo, l'ancien ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, et de Jérôme Bouguma, qui était le tout-puissant ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité de Blaise Compaoré. Le 16 juillet dernier, le CNT, le Parlement de la Transition, avait mis en accusation l'ancien président Blaise Compaoré et plusieurs de ses ministres devant la Haute Cour de justice. M. Bouguma avait été accusé de détournement du denier public et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 3 milliards de francs CFA. Quant à Jean-Bertin Ouédraogo, il est accusé par le CNT d'avoir détourné la somme d'un milliard de francs CFA. Le CNT a mis en accusation Blaise Compaoré lui-même pour, je cite, « fait de haute trahison et attentat à la Constitution ». Par ailleurs, ce mardi, VOA Afrique a appris l'arrestation de 3 militaires dans l'affaire Thomas Sankara. L'un d'eux serait aussi impliqué dans l'affaire du journaliste Norbert Zongo.
Le gouvernement du Soudan du Sud dit avoir besoin de 2 semaines de plus pour examiner le projet d'accord de paix que son président Salva Kiir a refusé de signer lundi à Addis Abeba. Selon le ministre sud-soudanais de l'information, les autorités vont consulter leur peuple sur la signature ou non de l'accord. Et le ministre des Affaires étrangères a dit que le gouvernement commencera dès aujourd'hui des pourparlers avec les groupes non gouvernementaux, partis politiques et autres parties prenantes pour déterminer la meilleure manière de procéder. Il explique que M. Kiir a refusé de signer parce que les médiateurs n'ont pas mis à jour le document avec les changements recommandés. Les États-Unis ont exprimé leur profonde déception hier et ont pressé le président Kiir de signer, comme l'a déjà fait son rival et ancien vice-président Riek Machar.
En Gambie, la justice a renvoyé au 1er septembre le procès du journaliste gambien Aladji Cissé, poursuivi pour sédition et que le parquet souhaite faire juger pour 7 chefs d'accusation au total, au lieu d'un actuellement, selon des sources judiciaires. Il est reproché au directeur de la radio privée gambienne Teranga FM d'avoir partagé par téléphone portable en juillet des images montrant une arme pointée en direction du président gambien Yahya Jammeh dans l'intention de susciter le mécontentement et la haine au sein de la population, commettant ainsi une infraction. Aladji Cissé a plaidé non coupable.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Thaïlande, plusieurs moines bouddhistes ont tenu une petite cérémonie mercredi matin pour la réouverture du sanctuaire du centre de Bangkok, frappé par un attentat à la bombe lundi, alors que la police thaïlandaise recherche un suspect identifié sur les images de vidéosurveillance. À 9h, une douzaine de moines bouddhistes étaient venus prier à l'ouverture, entourés par des fidèles, y compris des touristes, à genoux face à la statue du dieu hindou Brahma, a constaté un journaliste de l'AFP. L'attaque sans précédent dans la capitale thaïlandaise, qui s'est produite à 1 heure de pointe lundi sur l'une des artères les plus importantes du centre de la ville, a fait une 20aine de morts et plus de 120 blessés. Mardi après-midi, un petit engin explosif a explosé dans un autre quartier de la ville, proche du fleuve, sans faire de victimes. La police thaïlandaise estime que les deux attaques sont liées.
Un autre influent sénateur démocrate, Robert Menendez du New Jersey, a annoncé son intention de voter contre l'accord sur le nucléaire iranien conclu entre Téhéran, les États-Unis et leurs partenaires du P5+1, ce qui rend plus incertain encore le feu vert du Congrès. Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, il n'y aura pas mon nom écrit dessus, a déclaré M. Menendez lors d'un discours hier à l'université Seton Hall. Il emboîte ainsi le pas à son collègue Chuck Schumer de New York, le numéro 3 du Sénat. Le président Barack Obama a promis d'user de son veto si les deux chambres du Congrès votent contre l'accord le mois prochain. Et on ne sait pas si ses adversaires ont assez de voix pour passer outre.
Situation humanitaire préoccupante à Calais en France. Devant l'afflux quotidien des migrants qui tentent de gagner l'Angleterre via cette ville du nord de la France, Paris et Londres se sont mis d'accord. Le texte sera signé demain, Nicolas Pineau.
Les ministres français et britanniques de l'Intérieur signeront jeudi le document qui prévoit de renforcer la sécurité du site de Calais et surtout la lutte conjointe contre les filières de passeurs. L'accord prévoit aussi des mesures pour renforcer le dispositif humanitaire avec les associations et les élus locaux. Début août, déjà, le Royaume-Uni s'était engagé à renflouer pour 10 millions d'euros le fonds créé en septembre dernier pour sécuriser le port de Calais et doté à l'époque de 15 millions d'euros sur 3 ans. Demain, Bernard Cazeneuve et Theresa May se retrouveront à Calais, où affluent des centaines de migrants en quête d'un passage vers l'Angleterre. Les ministres visiteront le site d'Eurotunnel, où le dispositif de sécurité a été renforcé pour dissuader les migrants qui tentent de gagner la Grande-Bretagne. Selon Eurotunnel, le nombre de tentatives d'intrusion a baissé significativement au cours des dernières nuits, n'atteignant que 100 à 200 en moyenne, après un pic à 1700 le 3 août dernier.
Une grave crise humanitaire menace Haïti, notamment à cause des changements climatiques, s'inquiète l'ONU qui appelle à l'aide financière internationale. Claire Morin-Gibourg.
Le choléra est particulièrement virulent en Haïti cette année, avec une augmentation de 300% des cas par rapport à 2014, selon les chiffres de l'OCHA, l'agence humanitaire onusienne. L'épidémie a touché près de 20 000 personnes et 170 sont mortes depuis le début de l'année. Le nombre de cas est tellement élevé qu'il dépasse le total de malades recensés ailleurs dans le monde entier. Une situation due en grande partie à la consommation d'eau de mauvaise qualité, pointe l'OCHA, qui souligne que la situation humanitaire du pays s'aggrave à cause de plusieurs facteurs. La dévaluation de la monnaie locale, l'augmentation des prix des produits de base comme les médicaments, la nourriture et l'eau, et la sécheresse qui frappe sévèrement plusieurs départements du pays. Le rapatriement de 60 000 Haïtiens de la République dominicaine en juillet dernier a également contribué à l'aggravation de la crise humanitaire.
Et maintenant, la Minute Éco avec Tatiana.
Le groupe de sucre mauricien Alteo poursuit son implantation dans l'est de l'Afrique après avoir fait l'acquisition d'une sucrerie en Tanzanie en 2000. Un an de négociations auront été nécessaires pour finaliser sa prise de participation à hauteur de 51% dans une entreprise sucrière kényane. Thomas Cook reporte à mi-février la reprise des réservations pour la Tunisie. La raison, la prolongation de l'état d'urgence dans le pays. Thomas Cook transporte en moyenne 700 000 touristes vers la Tunisie chaque année, soit près de 3% de sa clientèle. Suite à l'attaque de fin juin, l'opérateur a rapatrié 15 000 clients depuis la Tunisie. Crise alimentaire en Afrique australe, le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de 24,3 à 27,4 millions cette année, note un rapport de la SADC. Les chefs d'État de 15 pays d'Afrique australe se réunissent en sommet du 17 au 18 août au Botswana pour évoquer la question.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, phase de groupe hier soir de la Ligue des Champions en Europe.
Sans surprise, Manchester United a eu la tâche facile en venant à bout des Belges du FC Bruges 3-1, tandis que le CSKA Moscou a réussi à marquer contre le Sporting Portugal 2-1, préservant ainsi des chances de se qualifier pour la phase de groupe de la C1. Astana s'est imposé à domicile face à l'Apoel Nicosie 1-0, le Bate Borisov et la Lazio de Rome, respectivement face au Partizan Belgrade et au Bayer Leverkusen, se sont également imposés 1-0 sur leur pelouse.
Mercredi se déroulera notamment l'affiche la plus incertaine de cette phase de barrage.
Oui, et ce sera entre l'ambitieux Valence et Monaco, quart finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Les Albanais de Skanderbeg jouent contre le Dynamo Zagreb. Celtic Glasgow affronte Malmö de Suède. Les Suisses du FC Bâle en découdront avec le Maccabi Tel Aviv. Le Rapid de Vienne sera contre les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Ces barrages dont les matchs retour ont lieu les 25 et 26 août constituent le dernier obstacle avant les poules. Les clubs éliminés en barrage sont reversés en phase de groupe d'Europa League.
Cannes 2017, on connaît les 23 Togolais contre Djibouti.
Oui, la Fédération togolaise de football a publié la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Tom Saint-Fiat en vue du déplacement à Djibouti en éliminatoire de la CAN 2017. Emmanuel Adebayor, bien sûr, figure parmi les convoqués, alors que Vincent Bossou et Mani Sapol font leur retour.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les avocats et les proches de Jean-Pierre Bemba, accusés de subornation des témoins, resteront en liberté provisoire. La chambre de première instance de la CPI a annoncé la décision hier, répondant à la chambre d'appel qui, elle, réclamait la levée de la liberté provisoire. Pour plus de détails, Eddy Sango a joint un des porte-parole de la Cour, Paul Madidi.
La chambre d'appel saisie par le bureau du procureur avait suggéré que la chambre de première instance, celle qui s'occupe de l'affaire Jean-Pierre Bemba et les autres dans le cadre de l'affaire de l'entrave à la bonne administration de justice, donc la chambre d'appel avait suggéré à la chambre de première instance de revenir sur sa décision de suspendre la mise en liberté provisoire accordée à Babala et les autres. Mais la chambre de première instance, tout en prenant en compte le point de vue de la chambre d'appel, a quand même décidé de maintenir la décision de mise en liberté de M. Babala et les autres, étant donné la difficulté, notamment, de pouvoir arrêter les concernés.
Et qu'est-ce qui a motivé cette décision de la chambre d'appel à l'encontre de la requête de la chambre d'appel?
Étant donné qu'il va s'ouvrir le procès de M. Babala et les autres, la chambre de première instance a suggéré qu'ils appuyaient, peuvent bénéficier toutefois de leur liberté provisoire, mais sous condition qu'ils retournent à la haie, au quartier général de la CPI, à l'ouverture de leur procès, qui est prévu pour le 29 septembre.
Ces quatre accusés avaient crié victoire quand ils sont rentrés à Kinshasa, disant qu'il n'y avait pas de preuves. Est-ce qu'on va dans ce sens?
Non, ça n'a rien à voir. Si le procès se tient, c'est parce que les juges estiment, considèrent qu'il y a une base juridique qui donne lieu à croire que les concernés, les accusés, auraient commis des crimes. Donc il y a des preuves assez suffisantes pour tenir un procès. Maintenant, par rapport à la liberté provisoire, ça peut être chose. C'est plutôt d'autres raisons qui interviennent d'ordre logistique, on va dire.
Joint à Goma, Paul Madidi.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Après la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso, un comité national de suivi de la libre circulation des véhicules de transport, des personnes et des biens est mis en place au Togo. Les membres du dit comité sont formés du 17 au 19 août afin de mieux appréhender la mission qui leur sera confiée. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les populations de notre espace communautaire ne circulent pas librement.
Cette affirmation est du directeur de la libre circulation et du tourisme de la commission de la CEDEAO. Mfali Sanon fait la mer constat qui pousse la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à opter pour une stratégie dite innovante.
Il y a des entraves qui subsistent ça et là, des raquettes, des pertes de temps. La CEDEAO, consciente de cette réalité, s'est engagée à mener un combat permanent pour faciliter la mobilité des populations dans notre espace communautaire. Et c'est pourquoi la CEDEAO vient de mettre au point un mécanisme innovant qui consiste à regrouper les différents corps de contrôle, ce qui va avoir un impact sur la rationalisation des postes de contrôle, mais aussi ceci va procurer un gain de temps aux véhicules de transport des personnes et des marchandises.
En harmonie avec sa nouvelle politique, la CEDEAO CEDEAO met en place des comités nationaux de suivi de la libre circulation, des véhicules de transport, des personnes et des biens qui regroupent tous les acteurs du secteur. Ces transporteurs qui opèrent sur la nationale numéro 1 font partie du comité togolais. Ils disent avoir observé une réduction des postes de contrôle.
Avant, c'était vraiment un casse-tête chinois. Maintenant, ça va mieux. Avant, quand tu quittes, par exemple, Lomé pour aller à Saint-Cassé, tu es obligé, franchement, de traverser beaucoup de choses. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu veux faire un voyage de un jour, tu peux le faire en 48 heures. Tout ça, là, ça agit sur vraiment les dépenses.
Ce retard est dû aux arrêts, aux postes de contrôle qui existaient avant. Tu dois donner de l'argent avant de passer. Maintenant, ces postes tendent à disparaître.
Leurs confrères de l'axe Lomé-Cotonou ne peuvent pas en dire autant. Leur calvaire continue, nous dit ce conducteur. Moi, je fais l'axe Lomé-Cotonou. À la gare routière improvisée de Olando à Lomé, ce sont les policiers qui règnent en maître. À chaque chargement, ils prennent 1000 francs CFA sans délivrer de reçu. Tu n'as même pas le droit de demander à quoi sert cet argent. Alors qu'il y a d'autres frais à payer tout au long du voyage, notamment les péages et les syndicats. Cela nous fait trop dépenser et moi je dis, c'est du racket.
C'est 1000 francs à chaque voiture.
Le comité mis en place va œuvrer pour mettre fin à toutes les formes de tracasserie et de raquettes qui constituent non seulement des manques à gagner pour les États membres, mais aussi un frein pour l'intégration régionale. Nous retrouvons Mfali Sano, le directeur de la libre circulation et du tourisme de la commission de la CEDEAO.
Il est certain que la réalisation du marché unifié qu'ambitionne la CEDEAO ne pourra se réaliser que si les populations ont la possibilité d'aller et venir sans entrave.
Même si des efforts sont consentis pour que la libre circulation des personnes et des biens soit une réalité dans l'espace communautaire, la route pour aller de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples est encore longue. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Bangui, capitale de la République centrafricaine, fait face depuis plusieurs jours à une forte pénurie de produits de première nécessité. En cause, la grève illimitée déclenchée par les transporteurs camerounais depuis le 31 juillet. Ils revendiquent plus de sécurité sur la route nationale numéro 1, principale voie de ravitaillement de Bangui par le Cameroun. Comment cette situation est-elle vécue à Bangui? Reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Grâce, 33 ans, vit avec son époux et ses trois enfants dans le premier arrondissement de Bangui. Cette paralysie provoquée par la grève des camionneurs camerounais a des répercussions directes sur sa famille.
Oui, effectivement, ça nous entraîne dans notre ménage. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va au marché, les prix des oignons, d'huile, des aliments et des condiments augmentent. Et là, même avec 2000 francs, on ne peut plus faire à manger.
Ici, la gare routière, connue sous le nom du BARC, le bureau d'affrètement routier centrafricain, les stocks des produits entassés sont épuisés. Plus de ciment ni de produits de première nécessité. Situation qui n'arrange pas les commerçants, très inquiets de voir leurs capitaux chuter. Igor Mamadou est vendeur à la gare routière. Il appelle le gouvernement à un dialogue rapide avec les conducteurs camerounais.
Vraiment difficile de s'asseoir maintenant. On a difficulté parce que les convois n'ont pas venu et puis on n'aura pas de bagages à payer pour vendre. Je demande au gouvernement de faire un effort pour appuyer ces conditions pour que ça soit arrangé.
Autre répercussion de ce blocus, le chômage des chargeurs qui se compte par centaines aux barques et la faillite de certains vendeurs à la sauvette. C'est ce que remarque ce passant.
Il n'y a pas d'activité. Il y a des gens qui vont souvent par terre. Comme d'habitude, vous le voyez, ils vendent des oignons, des ciments par-ci, par-là. Et vous voyez que du moment où il n'y a pas ça, ils sont obligés de retourner dans le quartier. Le gouvernement essaie de tenter de dialoguer avec ses frères conducteurs camerounais. S'ils peuvent rentrer vraiment dans l'ordre, vraiment ça se un sujet de remerciement du part des commerçants.
Trois semaines aujourd'hui, après ce blocus imposé par les camionneurs camerounais pour exiger plus de garanties de sécurité, tous les yeux sont tournés côté centrafricain vers les autorités de la transition. Grâce demande elle que les FACA, l'armée nationale centrafricaine, soient redéployés en appui à la MINUSCA, la force de l'ONU, pour sécuriser les convois.
Et là, ce que je propose, c'est qu'il faut que les FACA puissent également entrer sur le terrain, comme ça, ça permet de faciliter les choses.
Côté gouvernement, on assure que des négociations sont en cours entre les deux voisins pour décompter cette situation qui n'a fait que trop durer. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, pour des mesures de sécurité, le gouvernement a déclaré en juin 2012 zone rouge le bord du fleuve Chari, situé entre le sud-est et le sud-ouest de la ville de N'Djamena. Selon les autorités en charge de la sécurité publique, cette partie constitue un nid de malfrats. La traversée et même les activités dans cette zone, sur une distance de plus de 15 km, sont interdites. Décision qui a des conséquences pour les riverains. Reportage d'André Kotmanjingar.
Qualifiée en son temps comme mesure impopulaire et antisociale par la société civile, cette décision a été abandonnée tacitement quelques mois après son application. Mais en juin 2015, la mesure a été réactualisée par le gouvernement suite aux attentats kamikazes perpétrés à N'Djamena par Boko Haram. Ainsi, la traversée de cette zone déclarée zone rouge, les activités socio-économiques telles que la pêche, les marécages et le blanchissage sont strictement interdites. Béro Marc, un père de famille, affirme que toute sa vie est au bord du fleuve.
Moi, c'est depuis le CM2. C'était en 2001. Avec cet argent-là qu'on a fréquenté, jusqu'à arriver à un niveau, maintenant nous sommes mariés. C'est grâce à cet argent que nous nous occupons de notre petite famille, tout ça. Un Tchadien voit un Tchadien, il le reconnaît facilement. Venir directement et confondre tout le monde et dire que tout le monde est ceci, cela, là, c'est ça, là, qui n'est pas bon.
À quelques mètres de lui, l'homme et Francis, un jeune bachelier et ses amis, exploitent le sable depuis plusieurs années. Cette activité leur apporte 60 000 à 70 000 francs par mois. Ne sachant que faire face à cette décision, ils sont obligés de négocier avec les agents de la commission mixte pour la sécurité de la ville de N'Djamena pour assurer leur survie.
J'ai duré à peu près 17 ans, j'ai fait ici au bord. On tente même quelquefois des concours, ça ne tient pas. Vu la situation du pays, avec la corruption, tout ça, aller voler là, on voit que ce n'est pas bon. On ne connaît pas d'autre activité que ça. Au début, ils ne les ont pas compris. Ils étaient venus ici pour nous interdire carrément. On s'est organisé pour aller les voir, les poser, nos doléances. Donc, ils nous ont compris. Mais au moment qu'ils travaillent et qu'on voit leur hors-bord viennent pour faire leur contrôle, il faudrait qu'on s'arrête nos activités. Bon, quelquefois, ils viennent, ils ne nous imposent pas, mais c'est à notre volonté même, on leur donne quelque chose pour l'été.
Si les autres exploitants s'entendent avec ces agents de sécurité, Bessanger Richard Didier, un fabricant de briques, la trentaine révolue, a du mal à exercer son activité.
Parfois, on vient, il y a d'autres qui nous menace à ce qu'on ne travaille pas, on retourne à la maison dans la nuit ou après, on ne le voit pas d'abord, on risque de se descendre pour mieux travailler dans 30-45 minutes. Depuis même nos ancêtres, là même, ça, on vivait avec. C'est pas aujourd'hui, ils devraient suspendre à ce qu'on ne vient pas au bord. Avant, les briques qu'on gagnait, 300-400 000 par mois. Maintenant, là, même pas 100 000.
Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a indiqué que cette mesure sécuritaire reste non seulement en vigueur, mais elle est renforcée et élargie tout le long du fleuve Chari jusqu'au sud du Tchad, malgré qu'elle restreigne les activités économiques. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Qui peut arrêter le groupe État islamique ? Un an après le lancement des opérations militaires américaines, le groupe continue de progresser. En Afrique, Boko Haram s'est rallié à son drapeau. Les États-Unis et leurs alliés doivent-ils repenser la stratégie anti-EI ? Les franchises africaines sont-elles un vrai danger ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. Ever behind me, all these lights that can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.